Radio, cité Genève.
Radio Littéractif, l'émission de l'actualité littéraire romande, animée par Sita Potacherova, tous les lundis à 20h et en tout temps sur radiocité.ch.
Le Radio Littéractif sur Radio Cité Genève a le plaisir et l'honneur d'avoir en ligne Serge Bainpage pour son tout nouvel ouvrage aux éditions Zlatkin 2024, L'île pommelée de moutons blancs. Un ouvrage absolument savoureux dont je vais lire en page 108 un extrait. Il y a tant de coins semblables sur l'île où ne subsiste que la beauté sauvage, rude et cruelle, comme les îles de Pâques où je séjournais jadis. La poésie du lieu que les vents flattent et leur sifflement, le panorama des autres îles flottant dans la nuée entre ciel et mer. Le paradis pour les amoureux du solipsisme. Dans l'herbe haute, installée dans le présent éternel, on contemple la création. Alors oui, loin de toute rumeur, sinon celle d'ailleurs rarement perçue du volcan, nous voilà, telle l'anachorète, morts au monde pour notre résurrection. J'avais envie de lire cette citation parce que je trouve qu'elle mêle le style tout à fait savoureux de l'ensemble de l'ouvrage entre teneur philosophique, poésie et cette île de Lipari, qui se situe donc au sud de l'Italie, cette île volcanique par excellence dans les îles éoliennes, qui est peut-être justement un cadre propice à cette méditation poétique d'un narrateur qui va s'acheter une ruine à Lipari pour la restaurer et finalement y séjourner. Comment vous est venue cette idée? Est-ce que finalement ce narrateur a des accointances avec vous-même, Serge Bainpage?
Ben, écoutez, forcément, il s'agit, c'est vrai, du portrait de cette île. C'est un récit qui se veut poétique, parce que l'île est poétique. Mais comme vous le suggérez, tout portrait renvoie à celui, plus ou moins consciemment, du narrateur. Donc, il y a de moi dedans, oui, bien sûr. À la fois, d'une part, parce que j'ai véritablement retapé une ruine à Lipari. J'ai une petite maladie dont je viens de me soigner grâce à cette restauration de ruine, qui est celle d'acheter des maisons. J'ai passé mon temps, ma vie, à repérer des maisons à acheter et me rendre compte au moment d'acheter que je n'avais pas les sous.
Ah mais c'est complètement exotique. C'est exotique comme maladie. J'avais jamais entendu parler de cette pathologie. Tiens donc.
Oui, ben, bon, je ne sais pas si elle est répertoriée. Enfin, oui, il y a de moi là-dedans, mais j'ai essayé de ne pas trop parler de moi. Le projet, c'était vraiment de faire le portrait de cette île merveilleuse.
Et alors, ce portrait, vous le faites à travers le paysage, bien entendu, mais vous arrivez à mêler d'une façon très équilibrée des passages sur l'histoire de l'île, donc l'histoire italienne avec Mussolini notamment, et la situation de l'île à cette époque, mais aussi des portraits de personnages aussi fulgurants que le cadre de l'île volcanique. Et vous oscillez entre les deux de façon très équilibrée. Commençons peut-être par les personnages, si vous le voulez bien. Je lis en page 32 ce que vous dites des caractères des Liparotes. C'est comme ça qu'on les appelle. La vérité des Liparotes, je découvre vite qu'elle est dans leur spontanéité. Leur nonchalance ou leur veulerie, c'est selon. Ils ressemblent à leur île tout en contraste, en mare et monte. La chaleur, si c'est bien elle, freine le calcul, le jugement, la machination. À moins que ce ne soit l'état même d'insularité, comme à bord d'un bateau en pleine mer où l'on ne peut rien dissimuler. Soi-même moins que ses affaires, on n'y peut être que sincère. Donc un écartèlement caractériel de ces personnages Liparotes.
Mais c'est vrai, à l'image de l'île elle-même, ce sont des gens qui peuvent être extraordinairement agaçants parce qu'ils ne sont pas du tout à l'heure, ils ne tiennent jamais parole. Et alors au début, c'est très désarçonnant parce qu'on peut très difficilement construire quoi que ce soit. Mais évidemment que peu à peu, on se rend compte que ça n'est pas d'un farniente gratuit, c'est qu'il y a comme une sorte de culture de la tranquillité, je dirais, chez eux. Donc, véritablement des gens très sincères dans ce qu'ils sont, qui détestent être bousculés et qui profitent de leur plaisir d'insulaire, quoi. Mais je dirais, à l'image de cette île ou de ces sept îles éoliennes tout entières, puisque en même temps qu'il y a cette tranquillité, en même temps, ça bouillonne au sous-sol. Le Stromboli est tout près, le volcan. De temps en temps, il peut y avoir des feux de forêt terribles. Vous avez sept vents différents qui balayent cette île de manière très impressionnante parfois. Bref, vous avez aussi là cet écartèlement caractériel que vous évoquez.
Alors effectivement, comme vous le dites, ils assoient leur posture d'insulaire dans leur caractère, mais aussi face aux touristes, par exemple. Je me réfère ici au responsable de la petite taverne que vous brossez dans son attitude face à ce qu'il appelle les tsoufous. Je lis en page 41. Enfin, il finit par réapparaître, bouche en cœur, obséquieux comme pantalone, et le bouffon de me tenir la grappe, campé à mon côté comme un garde du corps et de me chuchoter « goguenard », désignant le groupe des randonneurs assoiffés et suants qui s'approchent. « Qui si chiamano tsoufous ?» On les appelle les tsoufous, ils n'arrêtent pas de marcher, les malades. Les insulaires qui voient les randonneurs et qui se disent « mais quelle absurdité d'aller randonner en plein soleil !» Et du coup, qui ne va pas les servir immédiatement, hein, qui prend tout son temps, voire les laisse partir avant même de les servir.
Oui, c'est tout à fait ça. Ils sont quand même stupéfaits par ces gens qui viennent du Nord et qui sont pressés. C'est pour eux quelque chose d'à peu près non incompréhensible. Et c'est ça qui est plaisant, c'est que il y a très peu de tourisme au sens détestable sur ces îles. Elles n'ont pas encore été contaminées. On a voté contre la construction d'un aéroport. On a élu un maire qui a fait ses études de sciences politiques à Turin dans le Nord. Il y a cette sagesse quand même qui est celle de se méfier du continent. On sait que politiquement on dépend de Messine, de la région de Messina, qui est donc sur le continent sicilien. On sait qu'on dépend de l'eau. Il n'y a pas d'eau sur les îles. On amène l'eau par bateau. Il s'agit de conserver cet art de vivre un peu chichement, même si tout fonctionne pas. C'est peut-être paradoxalement le garant de cette paisibilité.
Une paisibilité à préserver, à protéger, comme vous le dites, une méfiance avec le continent italien quand on est insulaire du Sud, qui est peut-être aussi liée à l'histoire de l'île, parce que vous reparcourez, par exemple, les épisodes liés à Mussolini. Il y a ce passage absolument incroyable pour un lecteur non averti qui découvre cet univers, notamment ces portraits sur les portes des maisons de Nello et Carlo, qui sont les frères Rosselli, et qui est une histoire absolument épouvantable, puisque ses frères, notamment l'un, va être condamné sous le règne mussolinien et se retrouver finalement exilé sur cette île. Je lis un passage en page 93. Nello parvient à s'évader par bateau, aidé par l'amant de la fille de Mussolini dont je t'ai parlé. Aventure rocambolesque retracée dans un film, mais la vie n'est pas du cinéma. Il y a d'abord sa thrombose sévère, ensuite la blessure de Carlo au combat lors de la guerre civile espagnole, aux côtés des républicains bien sûr, de sorte que les deux frères se retrouvent en France pour se faire soigner. Une histoire qui se mêle à la grande histoire et où Lipari joue un rôle.
Mais oui, un rôle terrible puisque Lipari a servi de prison pour les partisans qui luttaient contre Mussolini, qui ont été arrêtés et déportés là-bas. Le fameux rédacteur en chef et écrivain Malaparte a été embastillé sur l'île de Lipari. Donc c'est un destin, cette île, comme vous le dites, sur un plan historique qui est affolé. Il l'a tout le temps été. Même le fameux saint de San Bartolomeo, qui est le personnage sanctifié de l'île, ses dépouilles ont été déplacées par les Arabes qui étaient arrivés au XIVe siècle. Et ensuite, constamment, c'est une île qui a été envahie par diverses cultures jusqu'à celle de Mussolini, mais plus tard encore par les industriels qui se sont débrouillés pour extraire la pierre ponce de l'île. La pierre ponce étant cette lave refroidie au plus haut degré, donc elle devient blanche. Il y a aussi l'obsidienne. Et c'est des industriels qui ont exploité non seulement le lieu, la terre, la montagne, mais aussi les gens, de sorte qu'il y a constamment sur cette île ce mélange entre la beauté et la souffrance.
Vraiment un écartèlement, comme vous le dites, beauté et souffrance, qui doit évidemment, génération après génération, marquer de son empreinte les insulaires. Vous faites référence d'ailleurs à ces carrières de Pierre Ponce, avec notamment Gaston Vuillet, ethnologue, dans lequel on peut retrouver dans ses écrits que vous citez en partie, la condition de ces ouvriers de Pierre Ponce qui est encore pire que les autres ouvriers d'autres mines, d'autres minerais. Quelque chose qu'on n'imagine pas si on ne connaît pas cette île.
Mais tout à fait. Et vous savez, je pense que il s'agit de ne pas idéaliser trop le voyage. Je pense que véritablement voyager, c'est regarder avec les yeux ouverts, comme disait Marguerite Yourcenar, c'est-à-dire aussi bien les aspects les plus douloureux que les aspects les plus charmants. Et là, j'ai pas voulu m'économiser cette démarche-là. Il est certain qu'au départ, on rêve toujours d'un ailleurs un peu plus vert, ou en tout cas plus bleu, pour en l'occurrence. Mais ça serait tricher avec soi-même et avec la vie, je crois. On peut prendre n'importe quel lieu du monde, d'ailleurs, où vous avez toujours cette ambivalence, puisqu'elle est foncièrement relevante de la nature humaine.
Et c'est ce que vous parvenez vraiment avec brio à rendre dans ce petit opus savoureux, cet équilibre entre la poésie que génère une île, comme vous le dites, n'importe quelle île, à ce processus finalement de retour sur soi, un peu comme les insulaires. Le voyageur se retrouve confronté à lui-même et à sa propre histoire. Il y a la question aussi de sa place dans le monde, mais sans faire l'économie d'un réalisme, c'est-à-dire de ce paysage qui nous entoure. Il n'est pas seulement beau, il est aussi le résultat d'une histoire qui n'est pas toujours aussi savoureuse. Je trouve que trouver un équilibre absolument parfait pour donner au lecteur la teneur à la fois de l'histoire de l'île et des insulaires et de sa beauté. Beauté et souffrance, comme vous l'avez parfaitement dit. J'ai envie de citer d'ailleurs un autre passage qui revient à la teneur poétique de votre écriture. Page 145. « Me réveiller dans mon île, une île par moi écrite, peinte, aux couleurs douces et chaudes comme un sein. Tableau sans cesse retouché, dissimulant, tout en les suggérant, les repentir. Créer des images, ou plutôt les restituer, les ramener au jour en clair-obscur. Donner à voir ce qui est pour ce qui est, ou pour ce qui peut être, ou pour ce qui devrait ou ne devrait pas être. Magie kaléidoscopique de l'écriture dans des mains d'enfants. » Je crois que là, on sent tout à fait, dans la manière avec laquelle vous le relatez, cette frontière ténue entre la teneur poétique d'un lieu et en même temps ce qu'on aimerait y mettre et ce qu'il y a déjà dans ce lieu. Est-ce qu'on veut le regarder? Qu'est-ce qu'on en fait? Et est-ce qu'on veut juste le sublimer?
Mais vous en parlez tellement bien, j'en suis très reconnaissant.
Mais c'est parce que votre écriture est parfaite. C'est comme ça qu'on peut saisir la teneur en tant que lecteur, c'est quand c'est très bien écrit.
Merci beaucoup.
Je ne peux que recommander à nos auditeurs du Radio Littéractif et de Radio Cité Genève, si vous avez envie de faire un voyage, parce que du coup, votre écrit propose au lecteur un voyage qu'il peut s'approprier, presque le personnaliser en quelque sorte, grâce à la teneur poétique de cette découverte de Lipari. Alors, probablement la majorité de vos lecteurs se rendront à Lipari, même si ça va déranger la tranquillité des insulaires. Mais comme vous le dites, c'est peut-être aussi une manière d'ouvrir les yeux du lecteur sur n'importe quel voyage dans l'altérité humaine. il s'agit chaque fois d'une rencontre, et d'une rencontre qui devrait se faire sous tout le kaléidoscope des couleurs, qu'elles soient chaudes ou plutôt glaciales parfois. Ça fait partie du voyage en somme. Hein. Alors comment maintenant votre ouvrage est perçu, notamment par Lily Parrott ? Est-ce que certains l'ont lu ?
Alors je ne sais pas encore. Dans un mois j'y serai. Et puis je vais visiter le centre culturel de l'Iparis et puis le maire également. Et je doute pas qu'il soit intéressé de se saisir de ce petit ouvrage qui, vous le dites très bien, hein, c'est, je pense que c'est très sympathique de pouvoir lire comme ça ce qui n'est pas un guide, mais ce qui pourrait l'être un peu poétiquement comme ça. Voilà, donc, alors pour le moment, pas de retour, puisqu'ils ne l'ont pas encore reçu, mais je vous appellerai pour vous dire. Que
mais volontiers, et puis alors du coup, il faudra faire une traduction en italien, à mon avis.
Oui, sans doute.
Ça serait pas mal.
Ça serait bien.
Je le dis sur nos ondes, comme ça l'appel est fait, si jamais.
D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, vraiment.
Serge Bainpage, vous écrivez de façon prolifique, on peut le dire, vous êtes un auteur reconnu. Cet petit opus qui certainement a demandé pas mal d'énergie, est-ce que maintenant vous êtes en phase de repos ou bien vous avez en gestation d'autres idées littéraires ?
Je ne sais pas si on peut parler de repos quand on parle d'écriture, quand on est véritablement habité par ça. C'est-à-dire que j'écris toujours un peu. Non, pas de repos. J'ai un joli projet que je travaille en ce moment, qui parle de l'idée que je me demande dans quelle mesure, comme on nous l'a toujours dit, en particulier dans la Bible, si le verbe, si au début était véritablement le verbe, et je me demande si au début n'était pas autre chose que le verbe. Ça nous renvoie à la poésie, c'est la petite enfance. Je suis en train de réfléchir à quelque chose au niveau de la petite enfance avant qu'on parle.
Magnifique.
Et avant qu'on soit peut-être détourné. Alors, par l'écriture, c'est un peu paradoxal évidemment pour quelqu'un qui écrit, mais enfin, c'est intéressant.
Très intéressant, et je ne pense pas que ce soit si paradoxal. C'est presque linguistiquement et philosophiquement fondé, parce que les mots nous expriment, mais nous limitent également. Donc peut-être que l'enfant d'ailleurs le comprend très bien, les petits-enfants qui n'ont pas envie de parler, c'est souvent parce qu'ils ont ce pressentiment que c'est une duperie le langage et que ça n'exprimera jamais vraiment ce qu'ils pensent au fond d'eux, tellement c'est singulier
c'est
et personnel.
Tout à fait ça. Ouais.
Donc on se réjouit de vous lire, Serge Bainpage.
Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup de votre invitation, ça me fait très plaisir.
Merci. Et alors, à nos lecteurs, lisez de façon inconditionnelle L'île pommelée de Mouton Blanc, Serge Bainpage, édition Zlatkin 2024, pour entamer un voyage à nul autre pareil. Merci.
Merci à vous et bon voyage à tous.
Radio Littératif. Pour un voyage plus qu'extraordinaire, dont certains d'ailleurs ne sont jamais revenus.